France Culture.
L'économie peut-elle permettre au pouvoir public d'arbitrer, de prendre la meilleure décision possible, calculer les avantages et les inconvénients qui découlent d'une décision pour tous les individus concernés? Est-il seulement possible? L'économie en tant que science a-t-elle vraiment les moyens, les outils à disposition qui permettraient d'objectiver, de calculer les préférences de chacun pour aboutir à un niveau de satisfaction collectif? Toutes ces questions ont traversé l'histoire de la pensée économique et certains économistes s'en sont d'ailleurs saisis à bras le corps au moyen du une notion, celle de bien-être, car la question est assez complexe, les préférences des uns ne sont pas celles des autres, il s'agit là de choses très personnelles et cela n'est guère compatible avec l'idée que se fait la science économique d'elle-même à une époque où elle cherche à s'affirmer en tant que discipline scientifique par excellence. Par ailleurs, ce qui est bénéfique à certains peut générer des nuisances collectives et calculer ces externalités dites négatives, c'est leur nom, n'est pas une mince affaire, surtout si l'on se concentre sur une mesure objective qui ne prendrait en compte que les revenus ou la richesse créée. Alors comment hiérarchiser et surtout comment prendre en compte l'ensemble de ces préférences individuelles, les mettre sur le même plan et prendre une décision collective considérée comme bonne? Pour certains, tout est une question d'équilibre, d'optimum et de loi du plus grand nombre satisfait. Pour d'autres, il est nécessaire de prendre en compte les questions de justice sociale, de bonheur, de qualité des liens sociaux aussi, et donc de créer des indicateurs nouveaux qui dépasseraient le simple PIB afin de vraiment comprendre les effets produits par ces fameuses décisions politiques, les justifier et surtout les concevoir. Des questions essentielles à l'heure où le changement climatique et les questions d'inégalité dans des contextes budgétaires très souvent à la baisse imposent de faire des choix, si possible efficaces. Tout dépend là de ce qu'on met derrière cette notion d'efficacité. Autant de points de vue qui se sont succédés et ont contribué à former une économie fondée sur une notion, celle du bien-être donc. C'est le mot qui vient compléter le dictionnaire d'Entendez-vous l'écho dans cette émission programmée et préparée par Diane Devancet et Valentin Grille, réalisée par Françoise Le Floch et mise en ondes en direct et jusqu'à 15h par Élise Lure. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir deux invités qui sont avec nous aujourd'hui. Antoinette Beaujard, vous êtes professeure de sciences économiques à l'université Jean Monnet de Saint-Étienne. Vous êtes également chercheuse au groupe d'analyse et de théorie économique et directrice de l'ADRES, l'association pour le développement de la recherche en économie et en statistique. Bonjour et bienvenue à vous.
Bonjour.
Également avec nous à distance, Florent Bresson, vous êtes maître de conférences en économie à l'université Clermont-Auvergne et membre du CERDI, le centre d'études et de recherche sur le développement international. Bonjour à vous.
Bonjour.
Et merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Et puis merci également à Marion Angic d'avoir assuré le duplex depuis les studios d'ici à Clermont-Ferrand. Alors Antoinette Beaujard, il nous faut évacuer d'emblée la question et lever ainsi toute forme de confusion. À quoi renvoie spécifiquement la notion de bien-être en économie ?
Alors peut-être la première chose à dire, c'est de dire ce à quoi ça ne renvoie pas. On ne va pas parler de spa, on ne va pas parler de bien-être individuel et d'accomplissement et de yoga, même si c'est très important. On va plutôt parler, quand on parle de bien-être en économie, c'est du bien-être social qu'il s'agit et celui dont l'État ou le gouvernement, les collectivités locales pourraient être responsables. Et donc c'est bien de savoir comment est-ce qu'on va pouvoir, du point de vue public, améliorer la situation vécue par les citoyens.
Quand vous parlez de bien-être social, vous le distinguez donc du bien-être individuel. Ce bien-être social-là, il est collectif, il est à prendre dans cette dimension-là.
C'est une bonne question parce qu'il est collectif. Il pourrait très bien se déterminer directement au niveau collectif, mais dans le cadre de l'économie du bien-être, il se déduit et il ne dépend que des bien-êtres individuels. Et donc, ce sera la question de savoir comment est-ce qu'on le calcule.
C'est une vaste question qui effectivement va nous occuper pendant toute cette émission. Florent Bresson, si on comprend bien, lorsqu'on parle de bien-être en économie, il ne s'agit pas tant de mesurer le bonheur des individus. De ce point de vue-là, il faut bien opérer la distinction entre bonheur et bien-être. Quelle définition vous proposez de cette notion de bien-être?
À nouveau, hein, comme Antoinette Beaujard l'a dit, il faut vraiment la distinguer en creux de cette notion de bonheur. Et surtout se demander, parce que l'idée c'est derrière l'action publique. Et donc, sur quoi l'État, le gouvernement, l'acteur public est habilité, si je puis, à agir. Il y a le bien-être individuel présent de très 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 nombreux aspects, notamment par exemple des aspects émotionnels. Est-ce qu'il est légitime que l'État agisse sur ces aspects-là? Peut-être pas. Et donc, c'est l'action publique aussi qui va déterminer le champ sur lequel on va réfléchir en termes de bien-être.
Donc on voit là l'importance fondamentale, celle d'aider à prendre une décision publique. On va voir dans quelle mesure cela fonde effectivement cette économie du bien-être, ou au contraire, est-ce que ça grève aussi le raisonnement théorique. Il y avait une autre question que je voulais vous poser, Antoinette Beaujard, et opérer là une forme de recul peut-être épistémologique sur la discipline en elle-même. On parle d'économie du bien-être, est-ce qu'il s'agit d'une branche en soi? Est-ce que vous-même vous définissez par exemple en tant qu'économiste du bien-être? Est-ce que les économistes du bien-être se reconnaissent entre eux, ou est-ce qu'il s'agit d'une branche qui ne s'affirme pas nécessairement comme telle?
Alors, c'est une branche qui a été créée par Arthur-Cécile Pigou en tant que telle, et un certain nombre d'économistes pourraient se reconnaître en économie du bien-être. Aujourd'hui, ce sera peut-être plus facile d'identifier que certains se diront économistes publics ou bien économistes normatifs.
Et ce qui permet aussi de créer une forme aussi de cohésion théorique, vous l'avez dit, notamment à travers la figure de Pigou, sur laquelle on va revenir. Avant cela, Florent Bresson, une question se pose, et il faut insister là-dessus, c'est celle de la finalité d'une telle sous-branche, d'une telle sous-catégorie finalement de l'économie. Est-ce qu'on peut le résumer grossièrement ainsi? Est-ce qu'on peut dire que l'économie du bien-être cherche à mesurer ce que les individus préfèrent pour ensuite tirer une conclusion collective, conclusion qui permettra au pouvoir public de prendre la meilleure décision possible, ou en tout cas la moins mauvaise? Est-ce que c'est ainsi qu'on pourrait le résumer?
Alors c'est comme ça, notamment, qu'on l'a appréhendé à une époque, avec les travaux notamment de Kenneth Arrow sur la possibilité d'agréger les préférences individuelles. Donc effectivement, il y a toute une partie de la pensée qui, en économie, qui s'est développé, on va dire grossièrement, à partir de Jeremy Bentham et des utilitaristes, sur l'agrégation des préférences individuelles, des niveaux de satisfaction de chacun. Maintenant, on n'est pas nécessairement obligé de passer par les préférences individuelles. Et donc là, il y a toute une autre manière d'appréhender les choses, qui est de dire, voilà, l'important, c'est les moyens qui sont mis à disposition des individus pour générer du bien-être. Et donc, toute la réflexion, effectivement, cette notion de bien-être, elle est devenue centrale à partir du moment où on s'est dit, la réflexion en économie, c'est beaucoup une réflexion sur la manière d'allouer les ressources dans l'économie. Et comme on peut le faire de 27 000 manières différentes, et qu'on cherche la meilleure de le faire, il faut trouver une boussole. Et c'est donc cette notion de bien-être collectif, tel qu'elle apparaît en fait finalement aussi déjà des Adam Smith, qui devient l'alpha et l'oméga par rapport auquel on va juger de la pertinence de cette bonne allocation des ressources dans l'économie.
Mais ça, c'est extrêmement intéressant, Antoinette Beaujard, parce qu'on pourrait se dire qu'à partir du moment où il existe une science, à fortiori une science économique, qui tente de mettre en place des outils, en tout cas des mécanismes, pour prendre la meilleure décision possible, alors on verra comment, on pourrait se dire qu'il y a un énorme enjeu démocratique derrière. Est-ce que c'est aussi à cela que sert l'économie du bien-être? Puisque aider à prendre des décisions collectives, aider à allouer les ressources, c'est aussi un enjeu démocratique. Est-ce que ça, l'économie du bien-être en a conscience de ce rôle-là?
En tout cas, elle va le construire progressivement, cette prise de conscience. Une première chose à dire, c'est que cette économie du bien-être, c'est avant tout un cadre théorique que propose la science économique pour pouvoir y réfléchir. Et donc, c'est une science au service de ces décisions et du travail du gouvernement et du travail de l'action publique. Et donc, c'est vraiment, par exemple, ce qui animait Pigou au départ, de se dire, si on fait de l'économie du bien-être, c'est précisément parce qu'en tant que scientifique, on doit pouvoir apporter nos lumières, mais apporter des lumières utiles qui vont avoir leurs propres fruits et qui vont permettre de changer le monde, de changer la vie des gens et de leur façon de vivre pour que ce soit mieux pour eux. Et donc cette question-là, elle anime les scientifiques qui vont apporter leurs compétences en tant que scientifiques. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'ils vont se substituer aux décideurs publics pour le réaliser. Mais cette question de cette articulation science et démocratie, c'est un sujet qui va peut-être nous occuper pendant cette heure.
Et parce que c'est ce que j'allais vous demander, on pourrait se dire pourquoi les économistes, on va le voir, ont passé beaucoup de temps, d'énergie aussi à essayer de mettre en place ces mécanismes, de les construire, de les justifier scientifiquement, théoriquement, alors même qu'il existe une autre façon, et c'est peut-être une question naïve ou basique, mais il existe une autre façon de comprendre quelles sont les préférences des individus, c'est tout simplement le vote, et c'est une façon aussi pour eux de s'exprimer. Est-ce que les deux sont comparables? Pourquoi on se dit qu'il y en a besoin d'autres outils pour prendre en compte ces préférences?
Alors, on pourrait faire une émission entière sur le vote et savoir si elle permet effectivement d'éliciter les préférences correctement de ces votants et certainement pas de l'ensemble des citoyens. Mais la question qui se pose est peut-être plus complexe, c'est-à-dire que on peut savoir quelles sont les préférences de citoyens, on ne sait pas d'emblée quelles sont l'action publique qui permettra d'aller dans le sens de ces préférences et donc de savoir s'il faut construire plutôt une piscine de 25 mètres ou de 50 mètres, alors que c'est d'une part très cher, mais d'autre part plus sympa de pouvoir s'entraîner dans une grande piscine. Ça, c'est une question qui suppose des arbitrages et qui suppose de pouvoir tenir compte d'une grande diversité de connaissances, à la fois techniques et qui ne se limitent pas aux questions de préférence. Ce qui veut dire que il faut pouvoir non seulement savoir définir quelle serait une situation bonne ou mauvaise, mais savoir comment est-ce que on pourrait y arriver. Et donc ça, c'est le travail technique des scientifiques et des experts économiques.
Florent Bresson, si on résume tout ce qu'on vient de comprendre dans ces 10 premières minutes, il y a cette idée que finalement les économistes du bien-être se positionnent en tant que scientifiques, pas nécessairement, d'après ce que je comprends, pas nécessairement en tant que conseiller du prince. Ils mettent à disposition les outils, ce n'est pas pour autant pour dire quoi faire ou ce qu'on devrait faire. C'est toute la question de la normativité, évidemment, qui va là aussi nous occuper. Est-ce qu'on peut résumer les choses en se disant que ces outils-là qui sont à disposition, cette façon de mesurer les préférences des individus afin de prendre une décision, c'est une façon peut-être de pallier aussi le temps entre les élections, le temps entre deux moments de vote et donc d'expression des préférences, ou alors de s'en saisir sur des questions particulièrement techniques, comme on le disait à l'instant avec Antoinette Beaujard.
Plusieurs choses. La première, c'est que, effectivement, dans toute cette partie de l'économie publique qui est tournée autour des questions de bien-être a très vite été confrontée à la question de comment faire émerger des préférences collectives. Et on sait depuis longtemps, ça date remonte au moins jusqu'à Condorcet, que le vote majoritaire peut être manipulable. Alors, je ne parle pas d'acteurs extérieurs russes qui viendraient perturber, mais simplement la manière dont on organise des élections, la manière dont on pose les questions, déjà on sait déjà qu'on peut orienter les choses. Donc c'est toujours très difficile d'être neutre pour faire révéler des préférences. On a aussi autre chose, c'est que il y a une présomption de manière générale que pour un certain nombre de décisions, les individus ne sont peut-être pas les meilleurs, les personnes les plus aptes à prendre les décisions, à prendre les meilleures décisions pour elles. Notamment, on le sait, en matière de santé ou en matière de retraite, il y a besoin quelquefois de passer outre pour ce type de biens pour lesquels, voilà, on parle de biens tutélaires. Pour parler de ces biens, il vaut mieux que l'État prenne un peu du recul par rapport aux préférences manifestées par les individus de manière à faire leur bien pour eux. Toujours sur une pente un petit peu glissante là-dessus, mais malgré tout, c'est une réalité que pour certaines choses, il vaut mieux quand même ne pas tenir compte totalement ou en tout cas uniquement des préférences des individus.
Donc on voit que certains sujets justifient peut-être aussi ce recours aux outils économiques, en tout cas mis à disposition par les économistes. Antoinette Beaujard, vous dites dans un article que vous avez consacré à cette très vaste question de l'économie du bien-être, que la fonction de l'économie du bien-être est d'évaluer les conséquences des actions individuelles et des décisions publiques sur les états sociaux. Que faut-il comprendre à travers cette notion d'états sociaux? À quelle réalité cela renvoie-t-il?
État social, c'est probablement une mauvaise traduction de l'anglais qui veut dire situation sociale et qui vient décrire absolument tout ce qui devrait être pertinent aux yeux du ressenti des individus, hein, et qui va décrire ce qu'ils vont consommer, ce qu'ils vont produire, ce qu'ils vont ressentir, ce qui va être détruit, ce qui va être créé. Et donc l'ensemble de ces caractéristiques qui vont de la vie de chaque individu et de chaque institution, en fait, est décrite dans cet état social. Donc, c'est une façon de résumer en un seul mot, finalement, tout ce qui pourrait compter.
Ce qui est une bonne façon aussi pour les économistes de se saisir du réel d'une certaine manière. Et puis, pour terminer aussi ce premier aperçu et ces enjeux de définition qui sont très importants, Florent Bresson, la notion de bien-être, on l'a dit, ce n'est pas celle de bonheur, ce n'est pas non plus celle de richesse. Dans quelle mesure est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit aussi pour les économistes qui investissent ce champ disciplinaire de proposer une autre façon de raisonner par rapport à une économie qui, elle, se concentrerait uniquement sur les termes de croissance et donc de richesse? Est-ce qu'il faut rapprocher l'économie du bien-être des mouvements qui se veulent critiques des outils comme le PIB? En somme, est-ce que l'économie du bien-être se conçoit comme une alternative en soi?
Non, absolument pas comme une alternative. Elle vient compléter. Je pense que la plupart des auteurs qui ont proposé les mesures de PIB étaient tout à fait conscients de leur richesse. Et dans la plupart, enfin, les économistes savent très bien qu'entre un revenu et puis la satisfaction qu'on peut en tirer, il y a un écart. Et donc, ce qui est vrai au niveau d'un individu, encore plus au niveau d'une nation. Donc, plutôt complémentaire.
C'est une forme de complémentarité et on va voir que cette économie du bien-être a largement participé aussi à mettre en place une nouvelle façon de réfléchir, une nouvelle façon de mesurer aussi ce qui compte, nous l'avons dit. En 2008, Nicolas Sarkozy confiait à Joseph Stiglitz, Amartya Sen et Jean-Paul Fitoussi la mission de repenser la mesure justement de la performance économique et du progrès social. Le 14 septembre 2009, Joseph Stiglitz puis Nicolas Sarkozy expliquaient leur démarche lors de la remise de ce fameux rapport.
Nous faisons ça car nous voulons essayer de comprendre le monde et nous voulons le changer. Et je veux illustrer cela à travers les deux défis majeurs de notre siècle: lutter contre le changement climatique et la pauvreté. Nous allons réussir ces deux défis ensemble. Je crois que le but de l'étude des concepts statistiques par la Commission était justement de fournir de nouveaux concepts statistiques qui peuvent être utilisés précisément pour répondre à ces deux tâches.
Le problème vient de ce que l'on a fini par prendre la représentation de la richesse pour la richesse elle-même dans les réflexions que nous ont adressées Joseph Stiglitz, M. Sen et Jean-Paul Fitoussi. J'ai relevé cette phrase. L'une des raisons qui explique pourquoi la plupart des gens se considèrent encore moins bien lotis malgré la hausse du PIB est simple, c'est réellement le cas. Oui, il y a depuis longtemps un problème avec ce que nous calculons et avec la manière dont nous l'utilisons. Oui, les experts le savent depuis longtemps, ils en discutent depuis longtemps, mais cette discussion ne changeait rien parce qu'elle n'avait pas de conséquences. On connaissait les limites de nos indicateurs, mais on continuait de les utiliser comme s'ils n'en avaient pas.
Depuis longtemps, il y a un problème, c'est ce que vous disiez à l'instant, Florent Bresson, et on en revient là à l'utilité des concepts développés par l'économie du bien-être. Est-ce que c'est une façon pour certains pays de prouver qu'ils sont riches, mais d'autre chose que de richesse matérielle? Typiquement, quel était le but de Nicolas Sarkozy lorsqu'il demande à Amartya Sen, qui a reçu le prix de la Banque de Suède, soit le prix Nobel d'économie en 1998, justement pour sa contribution à l'économie du bien-être, et à Joseph Stiglitz, qui était lui aussi lauréat du prix Nobel en 2001, quel est le but quand on leur demande de réfléchir à un changement des instruments de mesure de la croissance?
Alors, je me garderai bien de dire ce qu'il y avait dans la tête de Nicolas Sarkozy. Je dois bien le dire. Est-ce qu'on est dans le coup politique ou est-ce qu'on est dans la volonté sincère d'apporter des changements? Ce qui est certain, c'est que on a eu une volonté après politique de mettre un petit peu en avant d'autres indicateurs. Alors, il y a d'autres pays qui ont commencé déjà un petit peu à faire évoluer les choses auparavant. Mais en France, par exemple, on a une loi promulguée en 2015 qui précise que avant chaque 1er juin, si je me trompe pas, le gouvernement doit remettre au Parlement un rapport sur 10 nouveaux indicateurs de richesse, bon, des indicateurs qui sont là pour présenter un panel plus large d'un panorama plus large sur l'état du bien-être en France de la population. Donc évidemment, il y a un indice de pauvreté, un indice d'inégalité, il y a un indice sur l'espérance de vie, voilà, des choses dans ce genre. Cette question, d'ailleurs, j'y pense, de la croissance, pas seul, qui soit pas l'alpha et l'oméga en matière de décision publique, c'est pas quelque chose de jeune. Hein. En 1974, si je me trompe pas, Dick Cheney et ses co-auteurs à la Banque mondiale publient un rapport qui s'appelle Croissance avec redistribution, déjà pour mettre en avant le fait que un agrégat de total ou par tête de revenus par habitant ne suffit pas pour suivre correctement, apprécier correctement un processus de développement. Hein, en 1990, on a l'indicateur de développement humain qui est mis en place par le PNUD, qui est là aussi déjà pour élargir un petit peu le spectre de ce qui est pris en compte pour apprécier les progrès humains. Le progrès économique humain.
Donc on le voit, cette volonté-là ne date pas d'hier. Pour bien comprendre ce dont il s'agit, Antoinette Beaujard, un article du Monde résumait ainsi l'apport d'Amartya Sen. Tout l'enjeu des travaux d'Amartya Sen est de prouver que l'important n'est pas la valeur absolue, mais la valeur relative. Autrement dit, la pauvreté ne se mesure pas en niveau de revenu, mais par rapport à son environnement. Être analphabète dans un village où tout le monde l'est n'est pas un drame. Dans un pays riche, ça l'est. Ça, c'est le résumé du Monde, Antoinette Beaujard. On aurait envie de se dire, où est l'apport de l'économie là-dedans? Est-ce qu'on a besoin des outils d'économistes et à force d'économistes du bien-être pour établir de tels constats?
Alors, pour critiquer l'économie, il n'y a pas besoin d'être économiste. Par ailleurs, pour pouvoir dire de loin ce qui ne va pas, c'est toujours facile de le faire. Par contre, l'objectif de l'économie du bien-être et des économistes, des experts, c'est de réussir à mesurer pour apporter des solutions, essayer de construire des politiques publiques. Et ça, le faire bien, ce sera toujours difficile. Donc la question, c'est pas tant de savoir s'ils l'ont fait de façon parfaite. Ça, on le sait. Et on peut le dire clairement, c'est très perfectible, mais c'est comment, quelles sont nos pistes aujourd'hui pour faire un petit peu mieux demain.
C'est ça, il y a ces deux volets. Il y a à la fois évaluer ce que produisent les politiques publiques, mais aussi les construire dans le but de les rendre efficientes, efficaces.
Exactement, et l'un est lié à l'autre. C'est-à-dire que si vous êtes capable d'évaluer les situations sociales, telles qu'elles sont aujourd'hui, évaluer la situation sociale telle qu'elle serait s'il y avait une politique publique, vous pouvez comparer et conseiller une politique publique qui permettrait d'améliorer la situation des citoyens. Donc c'est ça l'objectif de l'économie du bien-être, et c'est de construire ce calcul pour le permettre. Pourquoi ? Parce que les situations, si elles étaient évidentes et tout le monde préférait être plus riche que moins riche, on le ferait, on n'aurait pas besoin d'économistes. On va en avoir besoin de faire des calculs difficiles parce qu'il y a toujours des arbitrages, il y a toujours des décisions difficiles, des gagnants et des perdants, des situations qui viennent supposer des critères.
Florent Bresson, vous souhaitiez réagir?
Oui, tout à fait. Donc, juste par rapport à la manière dont les travaux d'Amartya Sen étaient résumés, je pense qu'il y a une erreur là, parce que Sen a eu l'occasion de s'en expliquer d'ailleurs avec un échange d'articles avec Peter Townsend assez vif, si je puis dire, en tout cas pour le monde académique, sur est-ce que la pauvreté est un phénomène relatif ou absolu. Et la position d'Amartya Sen est très simple. Hein. Il dit, en fait, ça dépend du domaine dans lequel vous étudiez les choses. Pour lui, fondamentalement, la pauvreté est quelque chose d'absolu. Hein, parce qu'il y a des besoins qui doivent être satisfaits. Après, dans le domaine du revenu, par exemple, ou dans d'autres domaines, ça peut s'exprimer sous forme relative. L'approche totalement relative, elle a pas de sens. On va pas dire qu'on n'est pas en train de mourir de faim s'il n'y a rien à manger, tout simplement parce que tout le monde autour de soi est aussi en situation de famine. D'accord. Oui. Donc cette l'approche totalement relative, elle a pas de sens. Ce que dit Amartya Sen, c'est qu'il y a un certain nombre de besoins essentiels à satisfaire. Alors, évidemment, des besoins purement physiologiques, mais aussi des besoins sociaux, la capacité à participer pleinement à la vie de la société, Et ça, c'est un besoin absolu, il est satisfait plus ou moins. Et par contre, la forme que cela va prendre, les besoins matériels que cela va nécessiter, ça va évoluer en fonction de la société dans laquelle on vit. Donc, relatif, oui et non. Relatif quant aux moyens à mettre en œuvre pour satisfaire ses besoins, mais absolu parce qu'il y a un fondamental, une vie décente, c'est une vie où on satisfait un certain nombre de besoins. Non seulement physiologique, mais aussi des besoins sociaux.
Tout l'enjeu dans ce que vous nous dites, Florent Bresson, est de savoir comment mesurer ces besoins, les prendre en compte. Or, on l'a dit, il y aura toujours des arbitrages à faire et potentiellement toujours des biais aussi dans la façon d'arbitrer. Alors nous avons évoqué le vote qui aurait pu être, on va dire, un autre mécanisme pour exprimer les préférences et les ajuster. Et puis nous sommes dans une émission d'économie, nous parlons là d'économistes aussi. Il y a un autre mécanisme qu'il faut évoquer, c'est celui du marché. Et justement, je voudrais vous faire entendre la voix d'un autre prix Nobel d'économie qu'il a reçu en 2015. C'est celle d'Angus Deaton qui s'exprimait dans la suite dans Les Idées sur France Culture en 2016.
Vous savez, le marché n'apporte pas la santé tout seul, comme cela. Non, il ne faut pas compter sur les forces du marché, il faut s'engager dans une forme d'action collective pour mettre en place un bon état de santé pour tous. Ça s'appelle d'ailleurs la santé publique, et il y a une bonne raison à cela. On ne parle pas de santé privée, justement. Et ça repose sur l'action publique. Vous avez fait référence dans votre question à ces pays où il y a eu une forte croissance des revenus et pas beaucoup d'amélioration dans la santé. Un exemple parfait en serait celui de la Chine dans les années 70, par exemple. Et en fait, le gouvernement a fait passer des ressources qui étaient utilisées avant à garder les gens en bonne santé. Eh bien, il a décidé d'allouer ces ressources à l'enrichissement de sa population. C'est un choix politique. Mais on n'est pas piégé dans un système réductionniste et déterministe. On a des choix, on peut opérer des choix dans nos sociétés. On sait comment le marché fonctionne, on connaît les incitations qui stimulent les marchés, tout ça c'est important, certes. Mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres facteurs très importants, d'autres aspects de nos vies très importants.
Florent Bresson, dans quelle mesure l'idée aussi des économistes du bien-être est de dépasser les mécanismes du marché ou en tout cas de pallier à ces insuffisances ?
Je dirais déjà, avant tout, c'est de mettre en évidence les limites de tout cela. Donc, on peut relier en fait beaucoup de questions de l'économie du bien-être à un autre programme de recherche qui a occupé énormément les économistes, qui était celui de l'équilibre général concurrentiel. Donc, savoir si une économie pouvait fonctionner de manière décentralisée sur un système de marché purement concurrentiel. C'est Léon Valras, fin du 19e siècle, quand il étudie la question, il se demande, est-ce que ça marche ? Et évidemment, les questions qui vont se poser derrière, c'est, ok, ça marche, sur le papier, une construction purement théorique, mais quelle propriété ça a en termes de bien-être ? Et les économistes vont mettre en avant effectivement que l'équilibre atteint a des propriétés particulièrement intéressantes en termes de bien-être social et sous certaines formes permet de le maximiser. Et de ce point de vue-là, les prix qui sont dégagés donc lorsqu'on a un équilibre offre-demande sur l'ensemble des marchés de l'économie, ces prix sont censés refléter la valeur sociale des biens. Mmh. D'accord ? Alors, là où il faut creuser un petit peu, tout en s'en sortir de la boîte, c'est que, bien évidemment, un prix, c'est l'expression d'un pouvoir d'achat. Là, on n'est pas une personne, un vote. On est sur un euro, un vote. Et évidemment, les prix reflètent avant tout, bien évidemment, les valeurs personnelles des individus les plus fortunés dans l'économie. Donc ça va être toute la limite un petit peu, mais cette réflexion de base, elle va être particulièrement importante parce qu'elle offre le cadre par la suite pour une bonne partie de l'évaluation des politiques publiques et notamment quand on fait de l'analyse coût-bénéfice, qui est l'outil le plus couramment utilisé pour décider si on fait des projets d'investissement public et entre plusieurs alternatives lesquelles choisir, et bien la théorie de base nous dit qu'il faut utiliser des systèmes de prix concurrentiels sur lesquels s'appuyer pour valoriser tout ce qu'il y a dans le projet. Antoine. Y compris quand les marchés n'existent pas, et là il faut trouver des prix.
Il faut bien trouver une solution.
Appliquer.
Antoine Beaujoire, vous souhaitiez réagir.
Lorsqu'on parle de l'équilibre général et du système de prix, on a effectivement ces très beaux théorèmes de l'économie du bien-être, les théorèmes fondamentaux de l'économie du bien-être, qui nous expliquent que effectivement cet équilibre concurrentiel spontanément avec des prix et un contexte de propriété privée, il est justement Pareto optimal. Il a certaines qualités en termes de bien-être social, mais ceci, notons-le, en fait, est vrai sous la condition qu'on a bien ces prix de propriété privée. Or, si les biens sont des biens publics ou s'il y a des effets externes, en fait, on ne se retrouve plus dans cette situation-là, et c'est là où, en fait, il y a des échecs de marché qu'il faudra compenser, résoudre. Donc, la santé est notamment une question, et notamment les questions de santé publique, en fait, ne sont pas traitables par exclusivement un système de marché, et la régulation des externalités ne le sont pas non plus. Et donc, c'est vraiment à ce moment-là, en fait, que les économistes du bien-être doivent se creuser la tête et trouver des solutions.
Antoinette Beaujard, pour bien clarifier les choses, j'ai l'impression que depuis le début, finalement, on navigue entre deux branches, ou en tout cas deux perspectives. Il y a à la fois une perspective très microéconomique, dès lors qu'il s'agit du comportement des préférences des individus, de l'autre, quelque chose de beaucoup plus macroéconomique, puisqu'on parle aussi d'indicateurs, et puis de bien-être général aussi, de la performance économique des pays. Où se situe véritablement l'économie du bien-être entre ces deux pôles ?
Alors, l'économie du bien-être est d'emblée une théorie microéconomique. Et c'est depuis le point de vue micro qu'on va essayer de prendre en compte et de construire petit à petit la mesure du bien-être social. Et donc, c'est dans la discussion de ces indicateurs, en fait, qu'on va arriver peut-être à des choses qui seront plus généraux.
Et nous allons voir que toute l'économie du bien-être est le résultat d'une très longue histoire de construction, de fonction aussi, de construction de la discipline économique en elle-même, qui cherche à dépasser certaines apories, certaines impasses de questions d'ordre à la fois éthique, philosophique et bien sûr technique en termes de calcul et de mesure des préférences. C'est toute la beauté de la chose, quelque part, puisqu'il va s'agir tout au long de cette histoire de contourner, de dépasser ces difficultés, d'où l'idée que plusieurs courants se succèdent aussi au sein de cette économie du bien-être. On en a parlé au singulier, mais on a déjà commencé à comprendre qu'il y avait des dissensions potentielles entre les économistes qui se sont penchés sur cette question. Une question pour démarrer cette histoire très longue, Antoinette Beaujard. À partir de quand prend-on conscience de l'importance du bien-être en tant que notion économique? Où peut-on trouver les fondements de cette économie du bien-être?
Alors, les fondements vont revenir depuis le début de l'économie, puisqu'elle est un peu conçue pour ça. Mais par contre, le terme va se retrouver pour la première fois chez Pigou, et je dirais qu'il va devenir peut-être plus clair dès son livre « Wealth and Welfare ». Dans lequel il va essayer d'étudier comment est-ce que les économistes vont pouvoir apporter des solutions à ce qui lui semble essentiel, les problèmes de situation sociale, mais aussi le sentiment qui va l'animer en tant qu'être humain s'il se promène dans les quartiers pauvres de Londres et il se dit voilà, moi en tant qu'être humain, en tant que scientifique, j'ai envie de pouvoir y faire quelque chose. Et donc de ce fait, il va créer cette économie du bien-être. Et donc c'est une économie qui c'est une science qui est à la fois positive et normative. On voit bien qu'elle est positive parce que il s'agit de pouvoir prévoir quelles causes et quels effets vont avoir quelle politique. Donc ça, il va falloir pouvoir le décrire. Mais en fait, pour savoir si les effets sont bons ou mauvais, ça c'est évidemment une question fondamentalement éthique. C'est une question de jugement de valeur.
Antoinette Beaujard, il y a évidemment la figure centrale de Pigou que vous venez d'évoquer, c'est 1920. Avant cela, on ne peut pas non plus dire que la question de l'utilité, de la question de savoir comment prendre une décision bonne à un niveau collectif a été ignorée par les économistes. On peut peut-être citer là la figure aussi d'Alfred Marshall, né en 1842 et mort en 1924, qui est assez importante de ce point de vue-là, parce qu'elle raconte aussi tout un contexte. C'est la fin du 19e siècle, qui est marqué par un constat relativement amer. Le progrès industriel et scientifique n'est pas parvenu à résoudre la question sociale. C'est du reste un paradoxe que reprendra John Maynard Keynes, celui de la pauvreté au sein de l'abondance. Dans ses Principes d'économie parus en 1890, Marshall écrit ceci: l'esprit du temps nous incite à examiner avec plus d'attention la question de savoir si notre richesse croissante ne pourrait pas servir plus qu'elle ne le fait à développer le bien-être général. C'est aussi cela qui préside à on va dire, la naissance, ou en tout cas les prémices de cette branche, Antoine Beaujard.
Oui, tout à fait. En fait, Pigou a occupé en fait la chaire d'Alfred Marshall et était extrêmement influencé par les questions qui ont été posées par Alfred Marshall et par les façons dont il pouvait commencer à y répondre. C'est donc dans ce projet-là. Mais alors après, il faut savoir donc ce qu'est le bien, ce qui est ce bien-être, comment est-ce qu'on peut le mesurer. Et donc ces questions, elles vont être posées de la manière suivante, c'est-à-dire que le bien-être total, c'est ce qui est important pour les êtres humains. Et ce bien-être total, Pigou nous dira, il comprend la beauté, la poésie, le fait d'aller se promener en montagne dans les Alpes. Ça, c'est évidemment, pour Marshall comme pour Pigou, des choses très importantes. Mais il va y avoir aussi ce que eux vont être capables de mesurer, ce sur quoi ils seront capables d'agir et de discourir, qui est ce qu'il va appeler quelque chose de plus restreint que le bien-être total, qui sera le bien-être économique. Alors, le bien-être économique, c'est quoi? Eh bien, c'est celui qu'on est capable de mesurer.
Et le reste est laissé à une autre discipline. L'idée, c'est que l'économie se concentre sur ce qu'elle peut mesurer.
L'économie se concentre sur ce qu'elle peut mesurer. Le livre d'abord de Marshall, puis celui de Pigou, puis celui d'un certain nombre de cette époque-là, extrêmement riche pour montrer qu'il faut surtout pas confondre les deux et que lorsque l'on fait l'un, on n'a pas forcément pris en compte l'autre aspect. Donc, si on réussit à augmenter le bien-être économique, on espère qu'on augmentera le bien-être total, mais il faut savoir qu'il peut y avoir des éléments d'incommensurabilité. Il peut très bien y avoir des choses qui viennent augmenter le bien-être économique tout en réduisant des effets sur le bien-être non économique, par exemple sur la capacité à produire de la poésie en Allemagne à l'époque des ingénieurs ou de la belle philosophie. Donc ça, c'est ce que Pigou va expliquer. Et de l'autre côté, il faudra bien comprendre que ce qui compte fondamentalement, c'est bien le bien-être total, ce qu'il va appeler la vie plutôt que la richesse. Et donc, c'est seulement dans un deuxième temps qu'une fois qu'on a bien mis ça sur la table, on se dit, après, on va se concentrer sur le bien-être économique. Mais ce bien-être économique, c'est pas juste d'augmenter la richesse. Ce qu'il va appeler le dividende national, encore une fois, qui revient de Marshall. C'est effectivement, s'il y a plus de richesse, on peut imaginer toutes choses égales par ailleurs que le bien-être économique s'accroisse. Mais c'est à certaines conditions. Que ce ne soit pas trop variable et qu'il soit bien distribué. Et donc, c'est-à-dire que Pigou va se préoccuper de façon fondamentale des questions d'égalité et de répartition des richesses.
Sachant que Arthur Cécile Pigou incarne cette première économie du bien-être, il y en aura d'autres par la suite. Vous dites toujours dans cet article que Pigou et tous les économistes de cette première économie du bien-être assument leur position égalitariste. C'est parce qu'ils s'inquiètent aussi de cette question de la redistribution, comme vous venez de le dire, qu'ils sont égalitaristes. Qu'est-ce qu'il faut comprendre à travers cette position d'égalitariste?
En tout cas, il se préoccupe de la distribution. Il pense qu'une situation sociale dans laquelle il y a une pauvreté aussi visible que celle qui se voit dans les quartiers de Londres, en fait, n'est pas acceptable. Voilà, c'est quelque chose qui leur semble absolument pas discutable et qui vient évidemment s'opposer peut-être à une vision étriquée qu'on pourrait avoir, nous, de leur racine utilitariste qui est évidemment encore là. En tout cas, pour eux, ce qui est important de bien prendre conscience, c'est qu'il y a cette acceptation du fait que être économiste du bien-être, c'est assumer des opinions politiques et éthiques, et celles-ci ne peuvent pas être exclues. C'est ce point-là qui va être discuté par la suite pour des raisons épistémologiques de désir de devenir une science peut-être plus rigoureuse.
Florent Bresson, vous souhaitiez réagir sur ces premiers pas, on va dire, de l'économie du bien-être, et notamment à travers la figure de Pigou.
Deux, trois petites choses. La première, c'est que d'ores et déjà sur ce dividende national, Pigou a tout à fait conscience des limites de qu'on retrouve d'ailleurs dans le rapport Sensitivity aussi, par exemple, la non-inclusion de tout le travail domestique. Donc c'est pas seulement effectivement la poésie en Allemagne ou les choses dans ce genre, il sait déjà que soulève déjà les problèmes qu'on va avoir avec l'outillage statistique pour apprécier la richesse nationale et ce qui va nous échapper. Il est aussi nombreuses reprises dans son ouvrage de référence, il souligne les dommages environnementaux. Ça c'est une préoccupation qui
C'est peut-être pour ça qu'il est assez connu aussi.
Régulièrement. Oui. Et Une dernière chose, alors, il n'est pas égalitariste hein, dans son ouvrage sur l'économie du bien-être. Il présente une théorie du salaire équitable qui, pour lui, est un salaire de marché, hein, de marché concurrentiel. Donc, voilà, une juste rétribution, c'est une rétribution à hauteur de la productivité marginale de chacun. Mmh. Malgré tout, il est assez conscient que la distribution des revenus, elle est très liée aussi à une distribution du patrimoine et que celle-là est contingente à un système qui n'est peut-être pas totalement, enfin qui peut être discuté et remis, être parfaitement remis en cause.
Tu fais construire quoi ?
Un complexe sportif et culturel.
Et tu as les crédits ?
Oui, bien sûr, ça a été difficile, mais je les ai.
La mode n'est plus tellement aux politiques de grandeur en province.
Ah bah c'est pas vraiment de la grandeur, ça je dirais plutôt que c'est le minimum.
Le minimum culturel garanti ?
Vous pensez bien qu'on va pas construire un nouveau bâtiment pour les 15 lecteurs que compte actuellement la bibliothèque ? Enfin, l'ancien suffit largement. Puis si un jour c'est trop étroit, on pourra toujours la déménager dans une des fermes à vendre du village qui coûte une bouchée de pain. Ce qu'on cherche, c'est pas satisfaire les besoins culturels des habitants de Saint-Juire, mais faire venir d'autres gens. Il faut à tout prix créer de l'animation dans les campagnes. De l'animation. Pour les gens de la ville, la campagne est inanimée. Il faut nous réanimer. Les architectes qui ont fait les beaux-arts, qui ont étudié la peinture, ils oseraient pas approcher leurs petits doigts d'un tableau de Ruisdael de peur d'écorcher la peinture, mais ils ont pas peur de venir saccager à coups de bulldozer un paysage qui est digne, et je pèse mes mots, des plus grands chefs-d'œuvre des maîtres hollandais.
Un extrait du film d'Éric Rohmer, L'Arbre, le maire et la médiathèque, sorti en 1993, où l'on entend bien tout le problème que signifie maximiser l'utilité, surtout celle de qui et au détriment de qui. Et puis la question évidemment des externalités négatives qu'on a commencé à aborder avec Pigou et cette idée que ce sont des externalités difficilement mesurables. Du reste, cette approche est assez rapidement critiqué. Dès 1932, Lionel Robbins, dans son essai sur la nature et la signification de la science économique, va rentrer, on va dire, dans le lard de Pigou. En tout cas, il estime que les effets des mesures politiques peuvent certes relever d'une démonstration scientifique, mais que tous les postulats sur les comparaisons interpersonnelles, qui consistent à comparer finalement les préférences de chacun des individus, et en particulier sur la décroissance et de l'utilité marginale individuelle, ce sont des termes sur lesquels on va revenir, sont eux subjectifs. En somme, selon lui, on n'a aucun moyen de comparer l'intensité de satisfaction de deux personnes différentes. Qu'est-ce que cela empêche, Antoinette Bojard, très concrètement ?
Alors déjà, pour être très clair, pourquoi est-ce qu'on a besoin de mesurer l'utilité de tout le monde ? Bah parce que la plupart des décisions publiques vont avoir des effets positifs sur certains individus quand ils en auront des négatifs sur d'autres. Si moi je veux une grande piscine, je suis prête à payer peut-être beaucoup. Si d'autres n'ont pas envie d'augmenter leurs impôts, alors eux, ils vont voir leur utilité baisser. Et donc la vraie question est de savoir comment on va arbitrer entre les gains des autres et les pertes des autres.
Qu'est-ce qu'on entend ?
Si je essaye de mesurer leurs préférences juste en l'observant, mais en fait, je n'ai aucun moyen de pouvoir mesurer, de comparer en quoi est-ce que l'augmentation de l'utilité de l'un va être suffisamment compensée, en tout cas, je pourrais le justifier au niveau collectif, par la baisse de l'autre. Et donc, pour cela, si vous voulez pouvoir décider si vous allez faire cette piscine ou non, eh bien, en fait, vous avez besoin de comparer les utilités des uns, des perdants, avec l'utilité des autres, des gagnants. Et cette comparaison, elle ne se base sur aucune observation scientifique. C'est ce que dit Robbins. Et si la préférence individuelle, c'est un état mental, une préférence ordinale qui peut éventuellement s'observer par des choix, il n'y a pas de possibilité de pouvoir l'objectiver. Et en ce sens, en quoi est-ce que ça reste le travail d'un économiste que de réaliser ce type de comparaison ?
Sachant qu'on est là dans une période aussi où l'économie cherche à s'affirmer hein, en tant que science, en tant que telle, c'est quelque chose qui tient à cœur à un grand nombre d'économistes, d'où l'idée aussi de critiquer ou en tout cas de se positionner en faux vis-à-vis de mesures qui relèveraient du subjectif, ou en tout cas qui ne seraient pas comparables. Florent Bresson, vous souhaitiez réagir sur ce moment-là, et puis sur ce deuxième moment, finalement, de l'économie du bien-être, après le premier moment pigouvien.
C'est-à-dire que l'ancienne, il y a une ancienne et une nouvelle économie du bien-être, historiquement. L'ancienne, on s'appuie justement sur la doctrine utilitariste qui dit, grosso modo, on apprécie le bien-être social, collectif, à partir des plaisirs et des peines, si je reprends les mots de Bendham, des individus. En gros, on fait la somme des utilités. Hein. Et tant Marshall que Pigou, mais même aussi Pareto, qui va être le créateur de la nouvelle économie du bien-être, un petit peu malgré lui, s'inscrivent à la base dans cette position utilitariste. Et puis, Pareto, alors il me semble de mémoire que c'est Baronnet qui lui dit « Attention, les comparaisons interpersonnelles d'utilité, c'est peut-être pas si simple que ça. Hein. » Au XIXe siècle, on est persuadé qu'on peut tout mesurer, puis finalement on se rend compte que ça, c'est peut-être pas si simple que ça. Pareto va produire son fameux optimum de Pareto qui... balayer les comparaisons interpersonnelles d'utilité. Et donc, Robbins, lui, il est là, c'est le dernier un petit peu d'une série de fossoyeurs de cette ancienne économie du bien-être qui, à chaque fois, vont dire non, pas de comparaison interpersonnelle d'utilité. Et il plante le clou décisif. Hein. Et derrière, justement, on va avoir des tentatives un petit peu pour dépasser ça. Ça va être, et notamment, c'est là où John Hicks et Nicolas Kaldor vont essayer de dire, OK, bon, on va rester dans cette idée de ne pas autoriser les comparaisons personnelles d'utilité, mais on va pas non plus s'arrêter à des situations où, sous prétexte qu'il y a un perdant, je ne peux rien dire, parce que je peux pas comparer le gain de ce perdant par rapport à des millions de gagnants.
Oui, ce qui mène à une impasse, quand même assez, voilà. Assez fondamentale.
Et donc, ils vont arriver avec un fameux critère de compensation. Donc là, ça devient un petit peu technique, on ne va pas rentrer dans les détails, mais qui va animer beaucoup cette nouvelle économie du bien-être. Où on va justement réussir à essayer, en tout cas essayer de tenter de dépasser cette difficulté à comparer les niveaux de bien-être individuels.
Antoinette Bojard, peut-être insister sur la place effectivement de Pareto d'un point de vue théorique aussi. C'est important de comprendre ce que c'est que cet optimum de Pareto et quel rôle il a joué dans l'apparition effectivement de ce second moment, de cette seconde économie du bien-être.
Donc Pareto, quand il est économiste, quand il est sociologue, c'est autre chose, mais quand il est économiste, il cherche vraiment à rester parfaitement rigoureux par rapport aux informations qui sont disponibles. Et si on n'a pas de possibilité de comparer les utilités des uns et des autres, en revanche, on peut dire socialement que si deux personnes se retrouvent dans une meilleure situation qu'une moins bonne, alors collectivement, ils sont mieux.
C'est la majorité qui l'emporte.
Non, pas la majorité, l'unanimité qui l'emporte. L'unanimité. C'est-à-dire que si tout le monde est mieux dans une situation B qu'une situation A, alors B est mieux. Mais s'il y en a 999 qui sont mieux et un qui n'est pas mieux, mais qui je suis pour sacrifier le centième ? Donc à ce moment-là, on ne pourra rien. Le critère de Pareto devient muet. Hein, il ne pourra pas dire que ça se justifiera de sacrifier cette centième personne. Et effectivement, si on ne veut construire une économie du bien-être qui ne respecte en tant que critère normatif que ce critère parisien, bah, très souvent, comme il y a toujours des perdants, alors on ne peut rien dire. Et c'est pour ça qu'a été annoncée la mort de l'économie du bien-être, qui avait un objectif qui était de permettre de justifier scientifiquement des recommandations de politique publique, mais avec ces outils qui se voulaient suffisamment rigoureux et scientifiques et neutres, alors on ne peut pas réaliser de recommandations de politique publique.
On a annoncé sa mort, mais l'économie du bien-être n'a pas dit son dernier mot. Certains économistes vont tenter de dépasser toutes ces impossibilités, à commencer par celle établie par Kenneth Arrow au tout début des années 50. Pour eux, les questions d'inégalité, de liberté et de droit ne peuvent pas être invisibilisées. Les préférences des individus ne reflètent pas forcément leur bien-être. Leur mission va donc être de prendre en compte ces enjeux éthiques et moraux et de proposer de nouveaux outils, de nouveaux concepts. Et c'est ce que nous allons voir juste après, bien sûr, Julien Clerc, qui lui exprime très clairement sa préférence à lui.
Je le sais, sa façon d'être à moi parfois vous déplaît. Autour d'elle et moi, le silence se fait. Mais elle est ma préférence à moi. Je sais, cette air d'indifférence qui est sa défense vous fait souvent offense. Mais quand elle est parmi mes amis de faïence, de défaillance, je sais sa défaillance. Je le sais, on ne me croit pas fidèle à ce qu'elle est. Et déjà vous parlez d'elle à l'imparfait. Mais elle est ma préférence à moi. Il faut le croire, moi seul je sais quand elle a froid. Ses regards ne regardent que moi. Par hasard, elle aime mon incertitude. Par hasard, j'aime sa solitude.
Ma préférence sur France Culture, et c'est bien de cela dont il est question dans cette émission qui s'attaque à une vaste question. Les économistes sont-ils capables de déterminer la décision qui permettra aux individus de voir leur bien-être augmenter? Faut-il viser en priorité celui du plus grand nombre, ou celui en priorité des plus démunis, ou celui, on l'a vu à l'instant, de l'unanimité? C'est à toutes ces questions que toute une série d'économistes ont tenté de répondre. Au cœur de leur réflexion, un concept, celui de bien-être, qui a suscité bien des débats, et c'est donc cette notion qui est l'objet de cette émission d'Entendez-vous l'écho, et nous sommes toujours en compagnie des économistes Antoinette Bojard et Florent Bresson. Antoinette Bojard, on s'est quitté sur une promesse, celle de comprendre aussi un autre clou sur le cercueil, parce qu'il y en avait déjà beaucoup, mais c'est celui que met Kenneth Arrow au tout début des années 50, en 1951. Lui aussi va établir un théorème, celui de l'impossibilité. Alors, que nous dit Arrow de façon très concrète, et puis pourquoi il voit lui aussi une forme d'impossibilité dans cette économie du bien-être telle qu'elle est en train de se développer? Et on a un peu l'impression aussi qu'il s'agit d'une forme de retour à l'envoi. En tout cas, il y a une forme de retour à Pigouille, cette idée qu'il y a une forme de critique de l'économie du bien-être, mais c'est aussi pour revenir peut-être aussi aux bases. Que nous dit Arrow?
Alors, Arrow s'interroge sur la possibilité d'agréger des préférences individuelles en une préférence collective. Si on est plusieurs, nous avons chacun une préférence, qui est un objet très simple, des classements, des situations sociales. Est-ce que je suis en mesure de déduire une situation, un classement collectif de ces situations sociales sans imposer de comparaison interpersonnelle ou de jugement de valeur qui serait un peu en dehors du métier des économistes? La réponse est non. Ça n'est pas possible. C'est une généralisation, en fait, de ce dont on parlait tout à l'heure, qui est le paradoxe de Condorcet. Une généralisation qui pose des problèmes, évidemment, dans les questions politiques et dans le vote, et qui a été, pour un temps, en tout cas, interprétée comme sonnant aussi le glas de l'économie du bien-être. Car si on ne sait pas ce qu'est le bien-être collectif a priori, on peut se dire qu'il se déduit mécaniquement de ce que l'on connaît des préférences individuelles. Mais si l'on ne peut pas mécaniquement déduire des préférences individuelles ce que serait le bien-être collectif, alors on est en difficulté. Et donc, dans un premier temps en tout cas, avant qu'il y ait une controverse pour savoir si oui ou non ce résultat était pertinent pour le cadre de l'économie du bien-être, en fait on s'est dit que ça n'est pas si simple de définir tout simplement ce que veut dire objectivement une préférence sociale. Donc la préférence sociale n'existe pas. Il va donc falloir s'interroger. Donc c'est soit considéré comme un théorème d'impossibilité, hein, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, mais c'est aussi une information très construite qui est de dire que si vous voulez construire un bien-être social, ça supposera d'y introduire explicitement au moins des critères de jugement de valeur qui vous permettent par exemple de justifier soit ces comparaisons interpersonnelles d'utilité, soit les critères d'équité qui vous permettent de savoir ce qui est mieux plutôt que moins bien.
Florent Bresson, vous souhaitiez réagir, et puis peut-être pour essayer de comprendre aussi cette pensée-là, ce théorème de l'impossibilité, il faut aussi rapidement préciser, et notamment parce que nous n'avons plus tellement énormément de temps devant nous, mais de préciser aussi que tout l'enjeu pour les économistes du bien-être a été aussi de dépasser ce théorème de l'impossibilité.
Ah, tout à fait. Hein. Ça a été vu comme quelque chose d'assez sclérosant à une époque, et puis heureusement, on a un certain nombre d'auteurs, dont Marcia Sen, hein, qu'on a mentionné par la suite, qui a montré qu'il y avait un problème de base informationnelle chez Arrow. C'est-à-dire que l'ambition de Arrow était très vaste. Il cherchait vraiment une règle d'agrégation qui fonctionne, quels que soient les cas de figure. Et puis, on a commencé à dire, oui, bon, d'abord, est-ce que toutes les préférences et toutes les configurations de préférences sont admissibles? Bah, peut-être pas. Après tout, on a déjà la loi qui interdit certains types de comportements ou qui prescrit certains types de comportements. Donc déjà, tous les comportements ne sont pas visibles. Et puis, on en a certains, après tout, qu'on peut se dire, bon, c'est peut-être un petit peu décalé. Si on a, est-ce que vraiment faut intégrer les préférences d'une personne qui ne serait heureuse que si elle prenait une douche de champagne tous les matins, par exemple. Bon, donc voilà, on a commencé un petit peu à déblayer de ce côté-là. Et puis aussi, on s'est dit, est-ce que l'information sur les préférences, c'est vraiment la seule chose qui compte? Partons d'un gâteau qui serait coupé d'une certaine manière, et puis on se dit, ben voilà, il y a deux personnes, il y a Pierre et Simone. Je réduis la part de Pierre pour en donner plus à Simone. Et quel est l'effet total? Est-ce que c'est collectivement mieux ou pas? Imaginons simplement que Pierre et Simone, ils sont plus heureux à chaque fois qu'ils ont plus de gâteaux. On aboutit à pas grand-chose. Mais en fait, les préférences, là, c'est pas la seule information pertinente. Faut se demander déjà quel était le partage initial. Si Simone n'avait pas grand-chose initialement comme gâteau, c'est tout à fait, on peut se dire, bah, c'est une bonne chose sans doute de que sa part s'accroisse. Si oui, c'était le contraire, eh bien le point de vue peut être différent. Donc il y a une information additionnelle à apporter pour prendre le jugement. Et c'est là qu'on s'aperçoit que le cadre revient. Il est un petit peu trop étroit pour pouvoir faire quelque chose.
Il est trop étroit et d'autres vont tenter de l'élargir. À un moment donné, on a vu qu'on a tenté de surpasser les difficultés techniques, finalement, du point de vue d'économiste. Et puis, il y a une nouvelle notion qui va apparaître, celle de justice sociale, qui est très importante, Antoinette Beaujard. Finalement, tout ce que l'économie avait cherché à mettre à distance revient au début des années 70, et notamment à travers les travaux de John Rawls. Qu'est-ce que ça change fondamentalement?
Alors, si on peut se mettre d'accord sur le fait que décider ensemble et décider pour le bien-être social suppose d'introduire des jugements de valeur, peut-être que les réintroduire de façon explicite va permettre de penser une nouvelle économie du bien-être qui sera une économie d'emblée normative, c'est-à-dire explicitement normative.
On assume le côté normatif.
On assume le côté normatif. Et ce qui va être analysé par Michan ou Atkinson plus tard, ce sera de dire que pendant toute la période de cette nouvelle économie de bien-être de X, on a essayé de faire une économie du bien-être neutre, mais qui ne l'était en fait pas. Simplement, nous n'avons pas pris la peine d'expliciter les différents jugements de valeur qui étaient derrière le critère d'efficacité et derrière le fait de partager, on est allé un peu vite là-dessus tout à l'heure, mais de mettre de côté la question distributive en disant qu'elle n'appartenait pas à l'économie. Ce que va plutôt suggérer Anthony Atkinson plus tard, ça va être de faire une économie normative qui dit son nom, c'est-à-dire que ce qu'est une économie du bien-être, c'est celle qui dit je sais quels sont mes jugements de valeur ou quelles sont mes croyances, je suis égalitariste ou bien je suis libertarien ou bien je suis utilitariste ou bien je crois en telle notion de responsabilité, et étant donné ces jugements de valeur bien explicites et politiques qui me permettent de savoir ce qui est bien et ce qui est moins bien, ce qui est juste et ce qui est moins juste, alors je pourrais mesurer ce que sera une meilleure situation sociale et quelle serait la politique publique qui le permette de l'améliorer. Et ça paraît relativement logique qu'une politique publique souhaitée par un libertarien ne soit pas la même que la politique publique décidée par un égalitariste.
Donc on voit qu'on avance sur des terrains plus éthiques, plus moraux aussi, plus philosophiques. Florent Bresson, en 1979, on l'a déjà mentionné, mais Amartya Sen publie un article intitulé « Equality of what ?». Là aussi, c'est un tournant. Pour quelles raisons? Et est-ce que, si on essaie de tirer une conclusion aussi de cette très longue évolution, est-ce qu'on peut se dire que le fait que, voilà, il y a eu ce rapport de 2008, il y a eu le Better Life Index de l'OCDE qui a été mis en place en 2011, est-ce qu'on peut se dire que finalement, cette pensée du bien-être a infusé, a trouvé des réalisations concrètes?
Ah oui, elle a trouvé des réalisations concrètes. On le voit aussi, la crise de 2007-2008 a mis énormément en avant aussi la question des inégalités. C'est quelque chose sur lequel on a cru pendant longtemps que il y avait assez peu à dire, tant pour par rapport aux questions d'efficacité économique, mais encore plus pour les questions de justice sociale. Et effectivement, à partir des années 70, ça revient de plein front. Donc, c'est revenu dans le débat entre économistes et ça infuse aussi dans le débat politique. On voit que maintenant, c'est inévitable.
Il y a une façon d'évaluer la santé économique d'un pays. Ça s'appelle le calcul du produit brut, national brut, PNB. Or le PNB, il paraît, moi je ne suis pas compétent, mais je crois avoir entendu dire que le calcul du produit national brut, c'est l'addition de tout ce qui se fait, tout ce qui se produit à l'intérieur d'un pays. Alors moi j'ai une autre idée. Je vais demander, est-ce qu'on essaie de calculer le bonheur national brut ? Il paraît que c'est très difficile.
C'est effectivement très difficile, mais nous avons tenté de comprendre comment on pouvait résumer l'économie du bien-être. Et c'était la voix du scientifique, naturaliste et biologiste Théodore Monod en 1992 dans l'émission Conscience Terre. Un grand merci à tous les deux, Florent Bresson et Antoinette Beaujard, d'avoir participé à cette émission.